France Musique.
Quel scandale! Carmen, tu bisais. Carmen! S'est écrié le directeur de l'opéra comique. La Carmen de Mérimée? Une espagnolade, cela est plaisant, mais cette femme, Carmen, est vulgaire, sans scrupules. Elle n'en fait qu'à sa tête, au gré de ses caprices. Elle vit de rapine au milieu des bohémiens. Non, vous n'y pensez pas, mon ami. Il nous faut de la morale. De la morale, Bizet. Et puis, combien de morts provoque-t-elle? Vous oubliez que l'opéra comique est le théâtre des familles. La mort à l'opéra comique, cela ne s'est jamais vu. Rendez-vous compte, Bizet. Cette femme ne vit que pour son plaisir. Et quant à sa conduite, parlons-en. Elle paie ses dettes en donnant son corps et pousse un de ses amants, Don José, qui était un jeune homme honnête, à devenir un assassin, un réprouvé. Non, cette histoire ne convient pas pour notre public. Songez-y sérieusement. Nous avons tous les soirs 5 ou 6 loges louées pour des entrevues de mariage. C'est impossible, Bizet. Impossible. Adolphe de Leuven et Camille Duloc ont beau dire et beau faire, Bizet ne renonce pas. C'est cette Carmen de Mérimée qu'il veut pour son nouvel opéra. La nouvelle n'a pas eu de succès auprès du public? Qu'importe. Bizet le sent bien, son sujet. D'ailleurs, en latin, Carmen ne signifie-t-il pas poésie, charme, musique? Devant tant d'obstination, le directeur n'a eu d'autre solution que de compter sur l'influence des deux librettistes, Henri Meillac et Ludovic Halévy. Il les a suppliés d'y aller doucement. « Je vous en prie, tâchez au moins de ne pas la faire mourir. » Bizet est un homme qui doute. Mais paradoxalement, il sait ce qu'il veut et ne veut pas. Pris de Rome, il aurait pu écrire des symphonies, des concertos, de la musique de chambre, faire une grande carrière de pianiste, lui, le virtuose que Franz Liszt avait félicité publiquement. Mais il s'est toujours senti fait pour le théâtre. « Toi, tu peux faire autre chose que du théâtre », lance-t-il un jour à Saint-Saëns. « Moi, je ne le puis pas. Je ne suis rien sans lui. » Et pour le théâtre, Meillac et Halévy, ses librettistes, sont au taquet. D'abord, Carmen ne sera plus mariée. Pas de mari trompé. Ensuite, ils atténuent la violence de la nouvelle de Mérimée. Carmen ne sera plus voleuse, mais contrebandière. Nuance. Pour la rendre aimable au public de l'opéra comique, ils ont resserré l'histoire autour de la passion de Don José et de sa liaison avec le toréador Escamillo. Ils ont mis du sentimentalisme et rendu plus sympathiques les personnages de premier plan. Ils ont civilisé Carmen, gommé l'indécence et les provocations de la créature endiablée, de sa soif de vivre, son charme mystérieux, sa lascivité, ses appétits farouches, sa sauvagerie, les plaisirs dionysiaques et frénétiques qui la voient séduire amant après amant. Et pour les jeunes spectatrices de l'opéra comique, et pour son directeur, ils ont inventé une jolie et pure jeune fille blonde en jupe bleue, Micaela. Voilà pour la morale de l'opéra comique. La vie matérielle de Bizet a toujours été dure, faite de travaux alimentaires pour les éditeurs et de leçons de piano. Je travaille à me crever. Je mène une existence insensée, écrit-il dans ses lettres, et sa vie familiale n'est pas plus heureuse. Avec cette Carmen, il allait composer l'opéra qui laverait son honneur, et en mai 1873, il se sent très inspiré. Cette œuvre lui ferait oublier le peu de succès rencontré par les pêcheurs de perles, la jolie fille de Perse, Djamilé ou l'Arlésienne, et elle lui ouvrirait un avenir radieux. Il en est convaincu. Il se rappelle son enthousiasme, son euphorie même, quand il a découvert cette nouvelle. Il écrirait autour de cette histoire une musique colorée, dynamique, vraie surtout. Une musique comme on n'en a jamais entendu. Une pépite greffée sur un drame qui en surprendrait plus d'un. Il se met au travail avec ardeur et se montre assez satisfait de son premier acte. Le résultat lui plaît autant que c'est possible. Le doute, toujours le doute. Un doute existentiel lancinant qui le ronge, entrecoupé de moments d'euphorie. D'un côté, il peut dire « il faut monter, monter toujours » et de l'autre, « j'aime mille fois mieux mes regrets que mes espérances ». Son travail progresse plutôt bien et en 2 mois, l'orchestration de Carmen est terminée. Les répétitions peuvent commencer. Bien sûr, on assistera à la mort de Carmen. Conformément à la nouvelle de Mérimée, il ne peut en être autrement. Bizet n'a pas cédé. Septembre 1874, les répétitions commencent. Le contact entre Bizet et les troupes de l'opéra comique est des plus cordiales. L'orchestre découvre les actes un à un. Bizet, c'est la coutume, ajuste son opéra à la scène et à ses interprètes pour lui donner plus de force ici, de couleur là. 6 mois sont consacrés aux répétitions. On raconte qu'il devra réécrire 13 fois la Habanera pour satisfaire Madame Gallimarié qui tient le rôle-titre. En sera-t-elle vraiment capable ? Premier signe d'inquiétude pour Bizet. À partir de janvier 1875, Charles Ponchard s'attaque à la mise en scène. Lorsque chœur, second rôle et figurant s'intègrent au spectacle, les chœurs semblent désorientés. Ils trouvent la partition inchantable et menacent de se mettre en grève. Eux, qui ont l'habitude d'être alignés en rang d'oignon et de chanter les ensembles, doivent ici jouer, réagir, aller, venir, fumer même. Vivre, quoi. L'entrée des cigarières et la bagarre suivant l'arrestation de Carmen au premier acte sont jugées inexécutables et la tension monte à mesure que la première approche. Georges Bizet tient bon. Des instrumentistes déclarent à leur tour certains détails de leur partie impossibles à jouer. Et, comme si ça n'était pas assez, Camille Dulocle vient mettre son grain de sel aussi souvent qu'il le peut. Il ne veut pas de cette histoire et fait tout pour le faire savoir. Des articles qui annoncent l'événement trahissent le climat délétère des répétitions et le parfum de scandale qui plane sur cette nouvelle Carmen que personne n'a encore vu. Et Dulocle, qui ne cesse de jouer les Cassandres en permanence, mais qu'il est fatigant, qu'il est décourageant. Comment travailler sur un nouvel opéra au sein d'un théâtre quand son propre directeur mène une campagne désastreuse contre lui? Il est à la fois sceptique, cynique et catastrophiste, démotivant, vexant les uns après les autres. Un ministre qui lui demande une place pour la première, le fourbe Dulocle aurait répondu « Monsieur le ministre, venez plutôt à la générale, afin de vous rendre compte par vous-même si l'œuvre peut être vue par des enfants. » Voilà l'ambiance. On raconte que Meillac se tenait à la porte de l'entrée des artistes et refusait tous les spectateurs qui ne montraient pas patte blanche. La raison de cette consigne sévère, dit-on dans la presse, est que Carmen présente des caractères tellement scabreux et des situations tellement dangereuses, en un mot, la pièce peut si facilement être mal prise qu'on a voulu empêcher les indiscrétions préalables et enlever le succès le soir de la première sans que le public ait le temps de se reconnaître. Enfin, après 6 mois de travail épuisant et de conflit, Carmen est présentée au public. Et il y en a du beau monde ce soir du 3 mars 1875. C'est le public des grands soirs. Les couloirs bruissent de 1000 rumeurs. On remarque Delibes, Gounod, Dindy, Offenbach, Thomas, Massenet, Lecoq, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas-fils, des chanteurs comme Hortense Schneider, Jean-Baptiste Faure, des directeurs de théâtre, des éditeurs, et puis tous ces habitués de l'opéra comique. Ceux qui ont, la veille, applaudi Haydé d'Aubert et qui, dans quelques jours, viendront réentendre le chalet d'Adolphe Adam ou les noces de Jeannette de Victor Massé. Des pages sans danger, pleines de flonflons, de gentilles mélodies, avec un orchestre docile. Avec Carmen, c'est sûr, ils ne vont pas s'endormir. À 20h16, les premières notes de l'ouverture résonnent dans la salle. Les thèmes de la corrida et du toréador provoquent quelques gloussements, mais on a l'air d'apprécier. Lorsque s'élève le thème du destin, de la fatalité, de Carmen, la salle tressaille. Oui, Carmen va réserver quelques sueurs froides à cette assemblée de petits bourgeois. Ludovic Halévy a consigné très précisément les événements de ce premier soir. Bon effet du premier acte. Applaudi le morceau d'entrée de Galimarié, applaudi le duo de Michaela et de Don José. Bonne fin d'acte. Applaudissements, rappel, beaucoup de monde sur scène. Bizet, très entouré, très félicité. Le second acte, moins heureux. Début très brillant, gros effet du morceau d'entrée du torero, ensuite, froideur. Bizet, à partir de là, s'éloignant de plus en plus de la forme traditionnelle de l'opéra comique, le public était surpris, décontenancé, dérouté. Moins de monde autour de Bizet pendant l'entracte. Les félicitations, moins sincères, gênées, contraintes. La froideur s'accentue au troisième acte. Seul applaudi par le public, l'air de Michaela, air de coupe ancienne, classique. Encore moins de monde sur scène. Et après le quatrième acte qui fut glacial de la première scène à la dernière, plus personne. Si ce n'est trois ou quatre fidèles et sérieux amis de Bizet. Tous avec des phrases rassurantes sur les lèvres, mais la tristesse dans les yeux. Carmen n'avait pas réussi. Pauvre Bizet. Il la paye cher, son obstination. Les musiciens et les choristes ont été médiocres. Les changements de décor beaucoup trop longs. Et la salle s'est vidée peu à peu. Le public de l'opéra comique ne comprend rien à son opéra. Un critique ose parler de dévergondage castillan. Certains réclament même que Carmen soit retirée de l'affiche. Le peintre Jacques-Émile Blanche, alors âgé de 14 ans, se trouve, ce soir de première, dans la loge avec ses parents. Nous voici aux secondes loges, en face de celle des Gounod. Après l'air de Michaela, au troisième acte, Gounod se pencha en avant et applaudit de manière que tous puissent le voir, puis se rassit et soupira « Cette mélodie est de moi ?» Georges m'a dévalisé. Si l'on retire les airs espagnols et les miens de la partition, il ne reste rien à mettre au compte de Bizet que la sauce qui fait passer le poisson. Mais certaines critiques admirent son orchestre, devenu, dit-on, créateur et poète. Théodore de Banville vante dans le National un langage divin exprimant les angoisses, les folies, les célestes aspirations de l'être qui, pétri de fange et d'azur, est ici-bas un passant et un exilé. Au lieu de ces jolies poupées bleu ciel et couleur de rose qui firent la joie de nos pères, Bizet a voulu montrer de vrais hommes et de vraies femmes éblouis, torturés par la passion, s'agitant au vent de la folie, et dont l'orchestre nous raconterait les angoisses, les jalousies, les colères, les entraînements insensés. Mais dans l'ensemble, le ton des critiques est virulent, voire incendiaire. La musique de Carmen est jugée bizarre. C'est de la musique cochin-chinoise, on n'y comprend rien. Tout ça pour ça. Ce soir du 3 mars 1875, lorsqu'il quitte l'Opéra Comique, passé 1h du matin, après être allé se réfugier dans le bureau du directeur, terrassé par ce nouveau revers, les rares mains qui se tendent, les petits mots chaleureux que quelques amis lui glissent ne le trompent pas. L'accueil a été glacial. Bizet se sent seul. Il refoule au fond de son cœur cette amertume. Il prend le bras de son ami Ernest Guiraud et il part marcher jusqu'à l'aube dans les rues de Paris. Il avait tellement rêvé d'une vie aisée grâce à ses compositions. Il a tant donné. Une fois de plus, Paris ne l'a pas compris. Carmen reste à l'affiche de l'Opéra Comique. Les recettes ne sont pas faramineuses, mais elles ne plombent pas pour autant la trésorerie du théâtre. Bouleversé, déçu, épuisé, Bizet se réfugie dans sa maison de Bougival le 29 mai 1875. Et en dépit d'une sévère angine, il se baigne dans l'eau glacée de la Seine. Il adore ses baignades. Mais sa santé se détériore et il refuse de se soigner. A-t-il été victime d'une crise cardiaque suite à cette imprudence ? Dans la nuit du 2 au 3 juin, Georges Bizet s'éteint à Bougival. Il n'a que 37 ans. N'a-t-il pas supporté l'échec de sa Carmen ? L'aurait-elle ensorcelé, lui aussi ? Le soir de la 33e représentation, au lendemain de sa mort, le public se presse massivement, attiré par l'atmosphère de scandale. Mais, comme souvent, le succès viendra de l'étranger, de Vienne exactement, où en octobre, Carmen rencontrera un accueil chaleureux et son succès se répandra comme une traînée de poudre dans le monde entier en quelques années. L'Opéra Comique de Paris ne remontera Carmen qu'en 1883 grâce à ce triomphe international que la France fut incapable d'enclencher. Ce sera aussi par ricochet une consécration pour la nouvelle de Mérimée. En 1888, Nietzsche écrit dans le cas Wagner « Cette musique de Bizet me semble parfaite. Elle approche avec une allure légère, souple, polie. Elle est aimable, elle ne met point en sueur. Elle tient encore de mérimée la logique dans la passion, la ligne droite, la dure nécessité. » Une autre sensualité, une autre sensibilité, une autre sérénité s'exprime ici. Cette musique est gaie, mais ce n'est point d'une gaieté française ou allemande. Sa gaieté est africaine. La fatalité plane au-dessus d'elle. Son bonheur est court, soudain, sans merci. J'envie Bizet parce qu'il a eu le courage de cette sensibilité. Une sensibilité qui, jusqu'à présent, n'avait pas trouvé d'expression dans la musique de l'Europe civilisée. Je veux dire, cette sensibilité méridionale, cuivrée, ardente. Quel bien nous font les après-midi dorés de son bonheur. Ironie du sort, Bizet est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris dans un tombeau érigé par Charles Garnier. Et Carmen est toujours aujourd'hui un des opéras les plus populaires au monde. La maison de Bougival, acquise en 2018 par le conseil départemental des Yvelines, attend sa réfection. Elle deviendra bientôt un lieu d'exposition et un musée Bizet.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
Carmen tue Bizet. Ici, c'est le Don José de Roberto Alagna qui tue la Carmen d'Angela Gorgiou.
c'est bien, on va qu'on l'appelle, s'il y convient de refuser. Il y a des femmes la soupirent, ne parle bien l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît.
Sur la route, on trouve l'amour, il est là, il vient sans. Thank you.
Thank you.
Je t'aime sous la tour de l'île, 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 de l
nous avons entendu des extraits de Carmen de Bizet et de la suite de Carmen de Chédrine. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était « Quel scandale !» Aujourd'hui, Carmen tue Bizet. Une émission de Jérémy Rousseau réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Stéphane Touvenin et Bernard Lagnel. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme demain, Mozart sauve sa peau.
À réécouter sur francemusique.fr.